Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité, qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est le député Nicolas Metzdorf, membre de la délégation loyaliste pour les discussions sur l'avenir institutionnel. Nicolas Metzdorf, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation alors que le ministre des Outre-mer a quitté la Calédonie il y a un peu plus de 48 heures, après une visite de 4 jours marquée par des négociations intensives. Manuel Valls, qui vient de dénoncer une tentative de déstabilisation après un courrier un peu surréaliste du groupe d'initiative de Bakou qui propose sa médiation dans les négociations sur l'avenir institutionnel. Et vous, quelle est votre réaction face à ce nouveau courrier? Certains parlent de provocation ou de tentative de déstabilisation.
Déjà, je trouve que c'est satisfaisant que le gouvernement réponde, que le gouvernement national réponde. Parce que jusqu'ici, les ingérences de l'Azerbaïdjan n'étaient pas ou peu dénoncées par l'État. Il y avait quand même une forme de silence. Et depuis que la résolution que j'ai déposée à l'Assemblée nationale et qui a été adoptée à l'Assemblée, je trouve que ça a permis en fait de faire réagir l'État. Et aujourd'hui, on a Emmanuel Valls qui dénonce à chaque fois les ingérences de l'Azerbaïdjan et qui là répond tout de suite à travers un communiqué du ministère des Outre-mer pour dénoncer en fait cette intrusion encore une fois de Bakou. Donc je me satisfais en fait que l'interpellation de l'État ait marché. Et puis moi je me rendrai en Arménie du 16 au 18 avril sur l'invitation de l'Arménie et de SOS Chrétien d'Orient.
Ça veut dire dans quelques jours là, dans le...
dans une quinzaine de jours, je me rends en Arménie. Pour justement en apprendre plus sur les méthodes de l'Azerbaïdjan. Vous savez que l'Arménie souffre beaucoup des attaques et de la guerre avec l'Azerbaïdjan. Ils ont beaucoup souffert aussi de la désinformation du régime azéri. Ils ont mis en place des procédures et des moyens d'y répondre. Donc c'est toujours bon d'aller voir les ennemis de nos ennemis.
Vous y allez à l'invitation de l'Arménie elle-même?
Oui, et notamment de l'association d'une ONG qui s'appelle SOS Chrétiens d'Orient, qui en fait défend les chrétiens persécutés à travers le monde entier. Et donc le calendrier me permet d'y aller, puisque les discussions qu'on aura avec le gouvernement sur l'avenir institutionnel se dérouleront en visio. Donc je ferai des visios depuis Erevan.
Et votre résolution qui est déjà adoptée par le Parlement français doit passer également à l'échelon européen aujourd'hui.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça a été adopté par la Commission des affaires européennes et la Commission des lois. Ça a été transmis au gouvernement national. Et désormais, le texte doit être repris au Parlement européen. Ça doit être repris par un des groupes du Parlement européen pour qu'il y ait un débat en hémicycle.
Eh bien, nous suivrons tout cela. En attendant, vous avez donc passé 4 jours en négociation avec le ministre des Outre-mer, Éric Thiers, le conseiller du Premier ministre, et puis les délégations calédoniennes. Alors, comment ça se passe? Ce qu'on va essayer de voir avec vous pendant ces quelques minutes, comment ça se passe? Parce qu'en fait, aucune information n'a filtré pendant 4 jours.
Ça se passe bien, en réalité, ça se passe bien dans la mesure où il y a l'ensemble des groupes politiques qui sont autour de la table, qu'on l'a dit plusieurs fois que la méthode est bonne. Il y a une volonté de discuter et de négocier. Mais après, une fois qu'on a dit ça, c'est des questions de forme, ce dont je parle. Après, il y a le fond. Et sur le fond, on est quand même encore très éloigné. Pour rien vous cacher, il ne faut pas donner de faux espoirs aux Calédoniens. Je pense que ça se passe bien. Je pense qu'un accord est possible. De là à ce qu'il soit trouvé dans les prochaines semaines, ça reste la version optimiste de l'affaire. Ça peut prendre encore un peu de temps.
Un mot sur la discrétion qui entoure ces négociations, alors qu'on a l'habitude, et puis surtout à l'heure des réseaux sociaux, il n'y a vraiment rien qui est filtré pour l'instant, notamment sur le projet d'accord que le ministre a mis sur la table. C'est bien cette discrétion? Vous y êtes favorable ou vous estimez que... On sait que certains Calédoniens se plaignent de ne pas avoir assez d'informations sur le contenu de vos discussions.
En fait, ça dépend des moments. Je pense que pour l'instant, alors ce n'est pas notre demande que c'est resté aussi discret, mais on s'est engagé à tenir la parole de faire finalement le moins de bruit possible sur ce document. Mais je trouve que ce n'est pas grave à l'heure actuelle parce que ce document est déjà caduque, puisque la version qui a été déposée par Manuel Valls a déjà fait l'objet de contre-propositions de l'ensemble des groupes politiques, en fait. Donc ce document, il est déjà modifié de fond en comble, en fait. Et il va continuer à l'être tout le mois d'avril. Donc de sortir une version brute aux Calédoniens, tout en sachant qu'il va y avoir des débats sur ce document qui déjà n'existera plus, en fait, je pense qu'il faut communiquer aux Calédoniens dans les moindres détails lorsqu'on a quelque chose d'à peu près arrêté. Voilà. Et bien sûr, leur donner les grandes lignes, les grandes idées, les grandes forces. C'est ce qu'on fait actuellement. Hein. On est tous venus dans les médias classiques en parler. Et on a fait une réunion publique hier à la fois où il y avait 200 personnes, où on a donné des éléments à la population. Donc on n'est pas non plus dans une forme de sacro-saint où il n'y a rien qui sort. C'est le détail et la virgule près qui ne sort pas, parce que la virgule a déjà changé de place, comme je le disais. Mais il y a quand même une transparence à avoir vis-à-vis des Calédoniens.
Manuel Valls a dit avant de partir qu'une étape décisive avait été franchie lors de ces 4 jours. Est-ce que c'est aussi votre impression ? Et on a envie de vous demander, sans dévoiler le fond des discussions, évidemment, mais sur quel point est-ce qu'il y a des avancées aujourd'hui ? Et est-ce qu'il y en a vraiment ?
Non, j'ai envie de dire que... En fait, ce qu'il y a eu de décisif, si je dois retenir le mot de Manuel Valls, c'est que il semble que l'UCFLNKS veuille rentrer en négociation. C'est-à-dire que ça a l'air de ressembler vraiment maintenant à de la négo. Et ce n'est pas seulement des discussions ou des déclarations d'intention ou de principe. On est vraiment, je pense, rentré dans cette phase-là. Mais il y a d'accord sur rien en ce moment, quoi. C'est-à-dire que je n'ai pas de point concret à vous donner sur... là-dessus, on est d'accord, puisque pour l'instant... on n'a pas pu aller plus loin que les considérants du document. Mais ensemble, et c'est la première fois que je le ressens et qu'on le ressent du côté des loyalistes, et ça fait quand même 4 ans qu'on est dans le tuyau, c'est la première fois que je ressens l'UC vouloir essayer de trouver une solution.
Voilà. Même s'il dit ce jour, enfin, les dernières fois qu'ils se sont exprimés, ils disaient qu'ils n'avaient pas encore de mandat pour négocier, qu'ils pouvaient juste discuter. Ils jouent sur les mots, en fait, ils sont vraiment rentrés en négociation, là, vous avez le sentiment ?
Je trouve que le chef de file un peu de la délégation UC, qui est mon collègue Emmanuel Tchibaou, semble vouloir lui rentrer en négociation. En tout cas, il est moteur dans le fait de poser les choses concrètement sur la table. Alors après, est-ce qu'il y a mandat, pas mandat ? Vous savez, ça change tous les jours. Donc je ne vais pas m'avancer dans la politique interne du FLNKS et de l'Union calédonienne. Ce que j'ai vu, moi, en tout cas, c'est un chef de file de la délégation UC qui cherchait à discuter avec nous et à commencer à entrer dans le fond du sujet.
Alors, puisqu'on ne peut pas parler du contenu, on a bien compris, c'est trop tôt, il n'y a rien de calé encore. On va parler de l'ambiance. Comment ça se passe entre vous ? Déjà, peut-être avec le ministre des Outre-mer. On sait que lors de son premier passage, vous aviez eu quelques mots. Et à Paris, récemment, vous aviez eu l'occasion encore de l'interpeller sur l'expression de lien avec la France, qui vous paraissait être une expression inappropriée. Est-ce que vous êtes revenu sur cette notion ? Est-ce que Manuel Valls parle toujours de lien avec la France ?
Non, il n'en parle plus. Il n'en parle plus. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il ne parle plus de peuple premier et il ne parle plus de lien avec la France. Donc, ça sert d'avoir des mots avec le ministre des Outre-mer. L'ambiance avec lui est bonne. Moi, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. C'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de compétent. C'est un ancien premier ministre, hein, quand même. Ce n'est pas n'importe qui. C'est un homme d'État. Mais j'assume avoir des divergences profondes avec lui. Ça reste un homme de gauche. Et je reste un homme de droite. Je trouve qu'il a toujours tendance en Nouvelle-Calédonie à une forme de repentance qui, pour moi, n'est plus d'actualité en 2025. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir des débats respectueux. Donc l'ambiance avec lui est bonne. Et j'ai trouvé d'ailleurs qu'il s'était recentré par rapport à ses premières déclarations lorsqu'il était venu la première fois, ou même avant qu'il vienne la première fois, où il avait parlé... de trajectoire, de pleine souveraineté, de souveraineté partagée, de peuple premier, où là, il avait quand même enchaîné les mots contre triple. Je trouve que là, il est plus neutre dans son expression. Je pense que c'est parce qu'on a haussé le ton. Et donc, aujourd'hui, ça va mieux.
Et l'ambiance avec les indépendantistes, notamment avec l'UCFLNKS, vous dites qu'ils sont prêts à négocier, mais on sait que dans cette délégation, il y a quand même plusieurs personnalités qui sont, c'est le moins qu'on puisse dire, proches ou du groupe Initiative Bakou, ou de la CCAT, ou des deux. Vous arrivez quand même à parler avec eux
Non, mais pour rien vous cacher, j'ai cité Emmanuel Tchibaou, c'est pas pour rien. Parce que le reste de la délégation FLNKS, ça reste quand même assez difficile. On a des débats qui sont tendus avec Rocco Amitan, Michael Forest, Aloisio Sacco et Omer Aneslin. Je pense que les Calédoniens les connaissent suffisamment pour comprendre que nos divergences sont profondes. Pour moi, c'est le choix de l'État, d'accord, mais... il n'aurait pas dû être là, en fait. Donc, Bon, on fait comme l'État a décidé, mais c'est pas forcément très aidant dans la discussion. Et je pense aussi que les positions radicales qu'ils expriment n'aident pas à ce qu'on avance rapidement. Voilà, je vais pas dire que ce sont devenus des gens très progressistes ou très modérés du jour au lendemain. Ce n'est pas vrai.
Et pourtant, est-ce que la notion de confiance n'est pas essentielle dans des négociations que vous venez ? Vous devez préparer un accord pour l'avenir de l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie ?
Mais vous savez, je crois que, et vous mettez le point sur quelque chose de très important, je crois que s'il y a un compromis politique, parce qu'on ne parle plus finalement d'accord, hein, on parle de compromis politique, déjà la notion est différente, je pense que ça n'exclut pas le manque de naïveté. Parce que l'accord Nouméa nous a fait rêver. L'accord Nouméa nous a mis dans un rêve, nous a endormis. Et donc, on a cru des choses qui n'étaient peut-être pas vraies. Et on a voulu peut-être se voiler la face aussi sur des réalités calédoniennes. Je crois qu'aujourd'hui, si on trouve un compromis politique, ce compromis n'effacera pas la naïveté. Et il ne le faudra pas. C'est un des messages que j'ai passé hier à la fois, c'est que un compromis politique n'arrêtera pas le racisme en Nouvelle-Calédonie. Un compromis politique ne résoudra pas la question de la possibilité de trouver un vivre ensemble. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que on va signer un compromis parce que c'est mieux pour le pays, parce qu'il faut trouver une stabilité, il faut redonner de la perspective aux Calédoniens, etc. Mais il y a des questions qui ne seront pas réglées avec ce compromis politique. Et il y a des questions qui mettront du temps à être réglées, si elles se règlent un jour. Et la question, notamment la plus importante, qui est de savoir, est-ce que la majorité des indépendantistes veulent vivre avec les non-indépendantistes, en tout cas sur un même pied d'égalité, hein, les hommes naissent libres et égaux en droit. Donc ça, je ne sais pas, et on le verra à la langue. Donc on peut signer un compromis politique tout en sachant qu'on ne va pas répéter la sérénade de l'accord de Nouméa le lendemain, en disant « ça y est, on ne forme plus qu'un, c'est génial, on s'aime tous ».
La communauté de destin, le vivre ensemble, tout ça, c'est un peu abîmé malgré tout aujourd'hui.
Pour moi, ça reste abîmé. Déjà, si on arrive à vivre en paix, ça sera bien. Le vivre ensemble, je pense que ça va mettre plusieurs années, voire des décennies, pour qu'on puisse y trouver une réponse. Déjà, qu'on vive en paix, vous savez déjà, ça sera un grand pas.
Alors, parmi les points de clivage, on imagine, il y a la question, je vais vous faire bondir, du lien avec la France, de l'appartenance ou non à la France, de l'appartenance à la France ou de l'indépendance. Il y a évidemment le droit ou non à l'autodétermination et comment il s'exprime. Qu'est-ce qui peut faire avancer la situation ? Qu'est-ce qui peut la débloquer sur ces points-là ?
Nous, ce qu'on essaie d'aller chercher, c'est le statut définitif. Ce qu'on essaie de dire aux indépendantistes, c'est que nous, on ne veut plus de référendum. On ne veut plus de référendum. Parce qu'on en a fait en 88, on en a fait en 98, on en a fait en 2018, 2020 et 2021. C'est pas des perspectives des référendums, c'est des obstacles, c'est des fossés. Donc ça sert à rien de condamner chaque génération. C'est-à-dire qu'une génération ne peut pas condamner à chaque négociation la génération qui vient après. Et donc nous, on veut sortir de ça. Et donc c'est ce qu'on essaie d'aller chercher. Et s'il doit y avoir un compromis politique de trouver, c'est sur ce débat-là. Est-ce que c'est un statut définitif ou est-ce que c'est une forme d'accord de Nouméa bis avec dans 20 ans, 25 ans, un référendum de projet qui se déclenche, etc. Je pense qu'il faut essayer de trouver l'accord définitif. Il faut essayer de trouver un statut où on puisse dire aux Calédoniens, à la sortie de ce statut, c'est fini. C'est fini. Voilà. Notre règle, c'est ça. Notre fonctionnement, c'est ça. Les compétences de l'État, c'est ça. Les compétences de la Nouvelle-Calédonie, c'est ça. Et on avance comme ça. C'est ça, les règles du jeu, de manière indéfinie. Je pense qu'il ne faut plus de CDD. Il ne faut plus de contrat à durée déterminée sur un statut de la Nouvelle-Calédonie. Il faut un CDI. Voilà. Et donc, c'est ça qu'on essaie d'aller chercher avec les indépendantistes. Et c'est ça le message qu'on leur a fait passer.
Même si, et c'est l'une des craintes, sans doute, de la majorité des Calédoniens, il y a ce terme de trajectoire qui est employé par les indépendantistes, par le ministre aussi, où on a l'impression qu'il y a une trajectoire presque inéluctable.
Non, mais ça, c'est la... Est-ce
que ça, vous êtes à même de l'arrêter,
ça, c'est la revendication des indépendantistes. Mais nous, on a le droit d'avoir aussi notre position politique. Et le ministre, quand il parle de trajectoire, il ne reprend qu'un élément de langage des indépendantistes. Mais le ministre, il était plutôt d'accord avec nous. Si on disait, mais monsieur le ministre, si on arrive à trouver un statut définitif, vous êtes d'accord ou pas ? Ben, forcément qu'il est d'accord, le ministre. Vous savez, lui, le ministre, il va être d'accord avec l'accord que les Calédoniens vont trouver. Hein. Donc, je pense que nous, notre responsabilité politique, c'est celle-là aujourd'hui. Moi, je vivrais comme la moitié d'un échec, un compromis politique où il y a un référendum prévu dans plusieurs années. Je le vivrais comme un échec, même si on s'est mis d'accord. Je pense que la plus belle des réussites politiques dans cette négociation, c'est qu'on puisse sortir de là en disant c'est terminé. Alors c'est très utopique, c'est peut-être même irréalisable, mais on se doit d'essayer, parce que si on n'essaye pas, on n'est pas un responsable politique.
Voilà. Quand vous dites pas de référendum, c'est pas de référendum d'autodétermination, pas de référendum couperet, mais il y aura de toute façon un référendum de projet ou d'approbation.
Il y aura le référendum d'approbation. Hein, voilà. C'est-à-dire que c'est, à la fin, c'est les Calédoniens qui voteront pour ou contre l'accord politique qu'on aura trouvé. Voilà, ça, c'est sûr.
Alors Manuel Valls revient le 29 avril, troisième séquence de négociation. Lui, il dit qu'à ce moment-là, il espère qu'un accord est possible. Mais d'ici là, qu'est-ce qui va se passer? Alors, vous nous parliez de visioconférence. C'est-à-dire que vous allez parler avec l'État en visioconférence. Ce seront des plénières ou des bilatérales?
Je pense qu'il va y avoir les deux. Il va y avoir des plénières et des bilatérales pendant un mois avec le cabinet de Manuel Valls sur les questions que l'on connaît, lien avec la France, compétences... autodétermination ou pas, province ou pas, fiscalité, voilà, toutes ces questions-là. Et ça va durer le temps que Manuel Valls revienne.
Et est-ce que vous envisagez des discussions directement avec vos partenaires calédoniens? Est-ce que, entre vous, entre responsables calédoniens, vous pouvez avancer les choses aussi, ou est-ce qu'il faut que le ministre soit là?
Je suis toujours très méfiant de ça, parce qu'à chaque fois qu'on a voulu essayer sans l'État, ça finit par déraper. Donc je trouve que quand il y a une méthode qui est en place et qu'elle fonctionne, il ne faut pas essayer d'en inventer une nouvelle. Quoi. Le mieux est l'ennemi du bien. Voilà, je trouve que pour l'instant, ça fonctionne. Donc tenter une négociation parallèle sans l'État à côté, oulala, vous savez quoi, pour l'instant, il y a un tempo qui est donné par un ministre, il y a un arbitre, il y a son cabinet qui est là, qui organise les choses, l'ordre du jour, le calendrier. Si on s'y met à côté... ça risque de brouiller les pistes, donc je suis pas fan de ça.
Alors juste avant de partir, Manuel Valls a déclaré « je crois qu'un accord est possible ». Vous parlez de compromis maintenant plutôt que d'accord, mais est-ce que à la fin du mois, à la fin du mois d'avril, début mai, on aura quelque chose? Est-ce que vous pensez que c'est réaliste d'espérer un accord à cette période-là?
Un compromis politique est possible. Est-ce qu'il est possible fin avril? C'est ambitieux. C'est ambitieux. Il faudrait que les visioconférences se passent très bien. Et il faudrait que les 4 jours de finalisation se passent très bien. Et surtout qu'on aille vite. On n'a pas démontré ça jusqu'ici. Je pense que si un compromis politique est possible, il prend du temps. Voilà. Il peut prendre encore des semaines, il peut prendre encore quelques mois. Je nous trouverais vachement efficace de trouver un accord politique en avril. D'autant que nous, tant qu'il n'y a pas d'accord politique aussi, il n'y a pas de référendum d'organiser par la Constitution française, puisque jusqu'ici, on est régi par l'accord de Nouméa et qu'on a fait les 3 référendums déjà. Donc nous, en fait, on n'est pas pressé, et je tiens à le dire, de trouver un accord politique, même si on est conscient de la situation économique et sociale du pays. Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, on est français et qu'il n'y a aucun référendum de prévu à l'heure où je vous parle par la Constitution française pour qu'on puisse se demander si on veut être indépendant ou pas à nouveau. Donc en fait, nous, on est dans une situation où on est français indéfiniment, là, à l'heure où je vous parle. Donc c'est aux indépendantistes de venir chercher un compromis politique et à proposer des concessions. Nous, pour l'instant, moi, mon passeport, il est français. Le vôtre, il est français. Et il n'est pas prêt de changer. Donc, si les propositions des indépendantistes ne nous conviennent pas lors des visios ou fin avril, on n'a pas de raison de s'emballer. Même si je comprends, évidemment, parce qu'on en croise tous les jours, l'urgence que nous dit le monde économique et les salariés. Mais ça, cette pression-là du monde économique et du salariat, elle est pour les deux camps.
Et il y a aussi l'urgence, même si elle est peut-être moindre, mais il y a l'urgence d'organiser des élections provinciales, puisque le dernier mandat, le mandat actuel semble infini, pour l'instant en tout cas, à rallonge. On avait dit des élections avant la fin de l'année. Ouais. S'il y avait un accord au 31 mars, ouais. Déjà on l'a dépassé, il semble qu'il va être encore plus... Comment est-ce qu'on va faire? Alors comment on va pouvoir s'organiser? Parce qu'une fois que l'accord est trouvé, s'il est trouvé, on ne va pas dire fin avril, mais disons dans quelques semaines, il y a encore tout un cheminement législatif pour qu'il soit... qu'il soit accepté et que, bah, les élections puissent être organisées.
La réponse, elle est très simple. Soit il y a la possibilité, et on est là sur la voie de trouver un compromis politique, et l'État va décaler encore une fois les élections, évidemment. Soit on se rend compte qu'en fait, c'est bloqué, et que les espoirs qu'on a actuellement seront vite douchés par la réalité des négociations. Et là, on n'aura pas le choix que d'organiser des élections provinciales. Donc c'est plutôt l'état d'avancement à chaque fois de la réalisation de l'accord politique qui décidera si on fait des élections provinciales vite ou non.
Avec le problème que s'il n'y a pas d'accord, les élections provinciales devraient être organisées avec un corps électoral gelé tel qu'il existe actuellement.
Oui, c'est ce que nous a dit le ministre, mais on a dit qu'on le contesterait devant toutes les juridictions possibles, parce que compte tenu de l'écart qu'il y a entre la réalité de notre corps électoral et ce qu'a dit par exemple la Cour européenne des droits de l'homme sur les conséquences du corps électoral gelé. Donc nous, on a des voies de recours possibles. L'idée, ce n'est pas d'en arriver là, vous l'avez compris. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, nous, on est plutôt dans une position où on ne court pas après les indépendantistes pour trouver un compromis politique. Parce que, comme je vous le disais, on est français.
Encore beaucoup d'obstacles donc à parvenir, à surmonter. Alors vous le disiez, il y a aussi la pression, entre guillemets, de la situation économique de la Nouvelle-Calédonie. Manuel Valls, d'ailleurs, a exprimé une très vive inquiétude sur ce qu'il a appelé la dégradation de la situation économique, sociale, sanitaire de la Nouvelle-Calédonie. Il a raison sur ce point, vous partagez cette inquiétude?
Ah bah oui, et puis les chiffres le démontrent, et puis pas que les chiffres. Vous ne pouvez pas croiser un chef d'entreprise qui ne soit pas en difficulté. Alors, moi je tiens quand même à saluer le travail de l'ensemble des élus non indépendantistes sur le sujet. Ça a d'abord débuté avec le député, pardon, je me cite, sur le vote du budget au niveau national, avec le milliard d'euros, le milliard 200 millions d'euros qui était prévu au budget, parce que si aujourd'hui on peut signer l'ensemble des mesures économiques, c'est grâce au vote à l'Assemblée nationale. C'est ensuite les mesures prises par le gouvernement et la province. Il faut saluer le travail de Christopher Gigès sur l'allègement des charges fiscales, l'augmentation du plafond de déductibilité des travaux. Il faut saluer les décisions que va prendre Sonia Baquès à la province sud sur le soutien aux patentés, sur le soutien aux primo-accédants à l'emploi. On voit qu'on a aujourd'hui des élus non indépendantistes, qu'ils soient à l'Assemblée nationale, au gouvernement ou à la province sud, qui prennent un ensemble de mesures économiques pour soutenir notre tissu d'emploi et notre richesse créée. Mais on est conscient de ça, que la vraie grande mesure économique, celle qui redonne du souffle définitivement à la Nouvelle-Calédonie, c'est une stabilité politique et un avenir dégagé. On est conscient de ça. Mais quand on est dans une négociation, il faut savoir aussi optimiser ses gains. Voilà. Donc on ne peut pas non plus être les plus pressés à vouloir trouver un accord politique. Et puis je tiens à souligner aussi qu'il y a un énorme travail, là encore, de la province sud sur le redémarrage de l'usine du Sud, sur le fait de trouver un nouvel actionnaire qui permettra de redonner de l'emploi et des perspectives sur l'usine du Sud. Il y a des discussions aussi avec la SLN sur un nouvel actionnaire. Donc il y a toute une stratégie et des actions qui sont développées par nos élus dans nos institutions pour maintenir le tissu économique.
Vous avez été soulagé vendredi dernier que le budget 2025 soit adopté avec l'accord pour le prêt dont vous parlez, le prêt de 120 milliards de francs CFP. Vous avez eu peur à un moment, vous avez pensé, on a vu l'ambiance un peu tendue, il y a eu un vrai suspense pour l'adoption de ce budget ?
Oui, je trouve que ça a été chaud et je le regrette, parce que je trouve que dans un moment comme ça, prendre autant de risques avec le budget de la Nouvelle-Calédonie, c'était compromettre définitivement notre survie. J'ai trouvé les indépendantistes complètement irresponsables. J'ai trouvé que l'UNI n'était pas à la hauteur des enjeux, puisque c'est quand même une part de leur budget. Le prêt a été négocié à l'époque par le président Mapou. Donc aujourd'hui, qu'ils ne le votent pas, c'est quand même assez contradictoire. Je dois souligner, on va parler de ceux qui ont bien fait leur travail, alors les non-indépendantistes comme d'habitude, les loyalistes, le Rassemblement et Calédonie Ensemble, il faut le dire, qui a participé à voter ce budget, même s'ils étaient contre le prêt au début. Et deux personnalités qui ont permis le vote de ce budget aussi. Velma Falayo, qui a utilisé sa voix prépondérante en tant que présidente du Congrès. Elle a fait honneur à son poste et à son sens des responsabilités. Et on l'oublie, Paul Néotin, qui n'a pas donné sa procuration aux indépendantistes, et donc les indépendantistes n'ont pas pu utiliser sa voix pour voter contre le budget, parce que si on avait eu la voix de Paul Néotin contre nous, le budget ne serait pas passé. Et donc ça, c'est un peu passé inaperçu, mais il fallait le souligner.
Ça aurait vraiment été catastrophique s'il n'y avait pas eu le budget, s'il n'y avait pas eu
ce prêt. On perdait plusieurs dizaines de milliards de recettes pour nos collectivités. On retombait à un budget de répartition, je crois que de 80 milliards au lieu de 110 ou de 120 milliards. Donc, en fait, on était en banqueroute totale. Et je trouve que les arguments qui ont été développés sur le fait de ne pas voter sur budget sont complètement ubuesques. C'est-à-dire que c'est les autonomistes, l'éveil océanien, les plus radicaux, et les indépendantistes qui refusent de voter un prêt. Mais c'est eux qui demandent plus d'autonomie à la Nouvelle-Calédonie. C'est eux qui demandent l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Mais si on ne voulait pas que l'État nous prête, on serait un département. Oui, Mayotte, ils n'en prennent pas d'argent. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est quand même ahurissant à la fois de demander plus d'indépendance et plus d'argent de la France en subvention. Ça ne peut pas marcher. C'est ce qu'on dit dans les débats sur l'avenir institutionnel. Vous ne pouvez pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la responsable du magasin. C'est-à-dire que comment... C'est un paradoxe sans nom de dire... Je veux plus d'indépendance, je veux moins dépendre de l'État. Par contre, ils n'ont pas intérêt à nous prêter de l'argent, ils ont intérêt à nous faire des chèques en blanc. Mais enfin, ça ne peut pas marcher comme ça. Et si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'on est autonome en tout. Moi, j'ai énormément de difficultés à obtenir ces crédits à l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Parce qu'ils nous disent, mais attendez, mais nous, on souffre de crises budgétaires partout. On n'arrive pas à financer des autoroutes, on n'arrive pas à financer des hôpitaux, on n'arrive pas à financer des écoles en métropole. Vous, vous êtes indépendant sur ces sujets-là, vous êtes autonome, vous êtes compétent. Et quand bien même on vous donnerait l'argent, vous nous dites encore, alors il parle des Calédoniens de manière générale, que l'indépendance est encore possible. Donc en fait, on investirait à fonds perdus chez vous, alors qu'on n'a pas d'argent. Comment je fais, moi, pour répondre à ça ? Donc je suis très content d'avoir entendu là le ministre sur ce sujet, qui a dit, et qui a répété quelque chose que je dis depuis des années, c'est que l'État nous a toujours dit que s'il y a un accord politique de trouver, il serait beaucoup plus conciliant sur la transformation des prêts en subventions. Donc on sait ce qu'il nous reste à faire.
Et on va attendre la suite. Nicolas Mézard, vous êtes député, vous suivez bien sûr de très près l'actualité nationale, même quand vous êtes en Nouvelle-Calédonie. L'un des faits de cette semaine, ça a été la condamnation à une peine d'inéligibilité avec exécution immédiate de Marine Le Pen. Elle pourrait ne pas être candidate, ne pas pouvoir se présenter à l'élection présidentielle de 2027, alors qu'elle en est la favorite dans les sondages. Comment est-ce que vous réagissez à cette... Il y a eu beaucoup de réactions, certains ont mis en cause la justice, d'autres... Comment est-ce que vous réagissez, vous, à cette condamnation ?
Est-ce que ça vous interpelle ? Moi, je fais partie de ceux qui remettent en cause la justice, parce que je trouve que la justice a fait appliquer la loi. La loi, c'est la loi. Et la juge l'a appliquée. Moi, en tant que parlementaire, par contre, puisque c'est mon métier de faire la loi, mon métier, c'est aussi de me demander tous les jours si la loi est bonne ou pas. Quand je suis à l'Assemblée nationale et que je dois appuyer sur un bouton, pour, contre ou abstention, ma seule réflexion, c'est est-ce que ce que je vote est bien ou pas ? C'est mon métier de réfléchir à la loi. Et quand je réfléchis à la loi qui a permis de condamner Mme Le Pen, je trouve qu'elle n'est pas sans défaut. Notamment l'exécution provisoire de l'inéligibilité. C'est-à-dire qu'on rend quelqu'un inéligible avant même la fin de l'ensemble du processus judiciaire. C'est-à-dire on la rend inéligible avant même qu'elle puisse faire appel. Et l'inéligibilité, c'est pas quelque chose de commun. C'est-à-dire que le juge remplace le peuple. C'est-à-dire que c'est le juge qui décide si quelqu'un doit être élu ou pas. Et ça pose une vraie question dans une démocratie. C'est-à-dire que moi, ça me dérangerait moins que Mme Le Pen soit condamnée, elle soit condamnée à de la prison avec sursis, qu'elle soit condamnée à une amende, mais qu'on laisse le peuple décider ensuite. C'est-à-dire, on connaît Mme Le Pen, on sait qu'elle a été condamnée pour ça, pour ça, pour ça. Est-ce qu'on vote pour elle quand même ou pas ? Et je trouve que l'exécution provisoire d'inéligibilité enlève du pouvoir au peuple, enlève un peu de démocratie. Donc certainement que c'est ce que j'aurais dit à l'Assemblée nationale si j'avais été député lorsque cette loi est passée. Donc, malgré tout, la loi est la loi et aujourd'hui elle est comme ça.
C'est une loi qu'il faut changer éventuellement, qu'il faut faire évoluer, qu'il faut
transformer. Gérard Larcher l'a dit, je crois que François Bayrou l'a dit, parce que ça remet en cause même un principe démocratique de fond. Qui décide dans une démocratie ? Est-ce que sur qui nous représente ? Et est-ce que c'est, est-ce qu'on donne ce pouvoir-là très fort à un juge ou est-ce qu'on garde ce pouvoir-là au peuple ?
Quelles peuvent être les conséquences politiques ? Bon, on ne le sait pas encore, il peut y en avoir des tas. Est-ce que ça accroît les risques d'une censure par le Rassemblement national du gouvernement Bayrou, voire d'une dissolution suivante de l'Assemblée nationale, puisque c'est possible à partir du mois de juillet, hein ?
Oui, alors, sans faire Madame Irma et de la politique fiction, le risque de censure est moins élevé qu'auparavant. Alors après, là, il suffit que je dise ça pour que demain, le gouvernement soit censuré. Mais Marine Le Pen, aujourd'hui, est inéligible, mais elle garde son mandat de députée. Par contre, s'il y a une dissolution de l'Assemblée nationale, elle ne peut pas se représenter pour son mandat de députée. Donc ça veut dire que si elle censure le gouvernement de François Bayrou et de Manuel Valls, et qu'à cause de cette censure, le président de la République dissout l'Assemblée nationale, Marine Le Pen ne pourra pas se représenter. Donc est-ce qu'elle prend le risque d'avoir une dissolution et de ne plus être députée ? Est-ce que ça la dérange ou pas ? Je ne suis pas dans la tête de Marine Le Pen. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a cette nouvelle donnée qui nous fait penser qu'il y a moins de risques de dissolution maintenant qu'avant le procès de Marine Le Pen.
Voilà. Et moins de risques de chute du gouvernement.
Alors, et du coup, moins de risques de censure. Et donc, le bonheur et la joie de continuer avec Manuel Valls encore un peu.
Nicolas Mézard, vous avez dit tout à l'heure que vous partiez en Arménie bientôt, mais vous partez également, vous vous rendez également à Washington la semaine prochaine. Voyagez beaucoup. Ouais. Quel est l'objectif de ce déplacement aux États-Unis ?
Je réponds, on voyage beaucoup. C'est important, je pense, de dire aux Calédoniens que nous, on a laissé l'international aux indépendantistes pendant trop longtemps. Nous, on a toujours parlé avec Paris, on a parlé avec l'État, et c'est normal, on est français. Mais on voit que les indépendantistes ont réussi à déstabiliser la Nouvelle-Calédonie avec les puissances étrangères, et pas les plus démocratiques. Et je trouve que nous, les non-indépendantistes, on doit maintenant aussi faire ce travail-là de sensibilisation de l'international sur la question calédonienne, pour nos intérêts bien sûr, mais aussi pour qu'il y ait des pays à l'ONU qui puissent défendre notre vision des choses.
Voilà, ça a été commencé un peu avec les présences maintenant à l'ONU.
C'est ça. Donc on voit qu'il y a une montée en puissance des non-indépendantistes sur l'international. Et c'est vrai que moi, ma place de député me facilite ce travail-là, puisque j'y vais en tant que député de la République française. J'y vais pas seulement en tant que député calédonien, mais député de la République. Donc forcément que les portes s'ouvrent plus facilement que si j'étais un simple élu du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, sans faire offense à mes collègues du Congrès. Et donc c'est vrai que, par exemple, on voyage aux États-Unis et préparé avec l'ambassade de France sur place. L'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est bien évidemment de sensibiliser les États-Unis sur notre situation intérieure, mais aussi sur la situation de notre région. Je rappelle que les navires chinois qui ont frôlé les côtes australiennes et qui ont détourné plusieurs avions commerciaux qui se rendaient en Australie, sans passer par nos eaux, par les eaux calédoniennes. Et donc, je crois que l'Amérique, qui est une puissance du Pacifique, par sa côte ouest et par l'État d'Hawaï, est un allié pour nous dans la région. On se souvient tous de l'histoire. Notre révolution industrielle à nous, Calédoniens, c'est l'arrivée des Américains en 1942. C'est comme ça qu'on a eu une progression technologique de haut niveau. C'est grâce à l'arrivée des Américains, il ne faut pas l'oublier. Et donc, on a une histoire avec les États-Unis d'Amérique. Et je crois que c'est important de rappeler ça aux jeunes générations qui sont aujourd'hui à Washington, en tout cas aux nouveaux leaders. Et donc, j'ai plusieurs rendez-vous, évidemment, avec mes homologues du Congrès américain, notamment avec le congressman. Alors, c'est l'élu du Congrès américain, mais de Hawaï. Et Hawaï, c'est important parce que c'est un État fédéré des États-Unis qui est une île du Pacifique. C'est là où il y a la base navale américaine la plus grande.
On peut s'inspirer de certaines manières dont est géré Hawaï par rapport à la Nouvelle-Calédonie. Ça peut vous inspirer ?
Bah, je pense que c'est un des sujets sur lequel je vais échanger avec mon homologue. Oui.
Et la politique commerciale ou la guerre commerciale des États-Unis, ça fait beaucoup de bruit ces jours-ci, avec l'augmentation des droits de douane décidée par Donald Trump. Il a raison ?
Non, moi je suis un libéral, donc je pense que c'est jamais bon de procéder à une augmentation des droits de douane de la sorte, surtout envers les alliés. Militaires et diplomatiques des États-Unis que sont les pays de l'Union européenne ou le Canada ou le Mexique. Mais je trouve que, en tant que Calédonien, je serais vraiment mal placé pour donner des leçons aux États-Unis compte tenu de nos protections de marché actuelles. C'est-à-dire que nous, on ne met pas 10% hein, sur les produits qui sont importés. Nous, on interdit d'importer des produits. Ou alors, on donne des quotas, ou alors on taxe à beaucoup plus que 10%. Donc je pense qu'avant d'aller donner des leçons aux États-Unis sur les droits de douane qu'ils sont en train de mettre en place, on devrait aussi balayer devant notre porte. Et je suis très content de voir que le gouvernement actuel réfléchit à travailler sur un abaissement des protections à l'entrée de notre pays, parce que je pense que si certaines participent à conserver une industrie puissante en Nouvelle-Calédonie, d'autres protections de marché participent au mieux à un enrichissement des prix, au pire à une forme de pénurie. Donc je crois qu'on a aussi besoin de réformer notre modèle. Donc je me garderai bien, lors de mon voyage aux États-Unis, de faire un quelconque reproche aux Américains concernant la politique commerciale de Donald Trump.
Bon, avec tout ça, vous serez quand même de retour le 29 avril en Calédonie pour la reprise des discussions.
Ah, mais évidemment, non, mais évidemment, priorité au direct, comme on dit chez les journalistes. Donc je serai là même bien avant le 29 avril.
Nicolas Mézard, merci d'accepter cette invitation. Beaucoup.